Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'État va-t-il lâcher un fleuron français en difficulté? Va-t-il se séparer de ses parts dans le capital d'Air France? La question est posée ce matin par un communiqué du groupe Accor Hôtel qui propose de les racheter. Des discussions seraient en cours. Analyse dès le début de ce journal.
Et puis vous entendrez Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur italien, lance un avertissement. Son pays ne peut pas être le camp de réfugiés de l'Europe, dit-il. Ce week-end, au moins 48 migrants sont morts en tentant de rallier l'île de Lampedusa.
Nous irons ensuite en Slovénie, où un nationaliste arrive en tête des législatives. Comme Viktor Orban en Hongrie, il avait fait campagne contre l'immigration.
Et puis, quelle politique française en matière de logement social? Les députés en débattent en ce moment même à l'Assemblée nationale avec le projet de loi Élan. Les logements HLM pourront plus facilement se vendre. Tollé chez l'opposition, vous l'entendrez.
Et puis nous ferons un point détaillé sur les pistes envisagées pour réformer l'audiovisuel public. Elles seront dévoilées, ces pistes, ce matin. Après ce journal, couac, bévue, opposition, pourquoi tout glisse sur le gouvernement? Ce sera le thème du billet politique. Frédéric Seyss est de retour. Et si l'État français réglait définitivement le cas Air France en s'en séparant? En tout cas, un groupe est déjà sur les rangs publiquement. Il s'agit d'Accor Hôtel, qui aurait proposé à l'État de lui racheter les 14% d'Air France KLM qu'il possède. Des réflexions sont en cours, selon un communiqué du groupe. Pas de confirmation de la part de Bercy. Il faut dire que les discussions sont extrêmement sensibles. Air France a toujours été en partie protégée par le parapluie public. Bonjour Jean-Marc Chardon.
Bonjour Clara.
Vaste dilemme pour l'État actionnaire dont le poids de la compagnie aérienne pèse de plus en plus lourd. Air France KLM a été largement déstabilisée par le départ de son PDG, mis en difficulté par la grève le mois dernier. Et visiblement, Jean-Marc, le groupe a du mal à s'en remettre.
Et oui, voilà tout juste un mois que Jean-Marc Janaillac, le président PDG, perdait le référendum qu'il avait lancé auprès du personnel. Et cela à la surprise générale, car il avait été bien accueilli à ce poste au début. Alors il faisait le pari qu'on le suivrait sur ses plans de réforme du groupe, sortir de la crise sociale sous forme de grève à répétition. Échec cuisant à l'arrivée. Et depuis ce départ, celle qui lui a succédé, Anne-Marie Coudert, qui vient de Presstalis, groupe de presse, n'est là qu'à titre intérimaire. Alors il faut donc trouver un successeur. Ce ne devait être qu'un intermède que cette présidence d'Anne-Marie Coudert, mais on ne voit pas de successeur à l'horizon, alors même que qu'elle a commencé à rencontrer les organisations syndicales afin d'essayer de renouer le dialogue social. Or, l'enjeu, il est déjà économique, comme on le sait, avec un groupe dont la croissance est surtout tirée par le néerlandais KLM, qui a vu le cours de son action dévisser sérieusement depuis le départ de Janaillac, et cela au moment où redouble la concurrence internationale. Mais alors, quelle stratégie au juste? On en était resté aux propos de Bruno Le Maire, écartant une sortie du capital de la compagnie. En même temps, l'État se pose la question de savoir si le moment n'est pas venu justement d'alléger sa participation de manière à ce que la compagnie se mette en situation d'affronter réellement la concurrence.
Un tableau noir que vous nous décrivez ce matin, Jean-Marc. Quel intérêt alors Accor Hôtel aurait-il à reprendre les 14,3% de capital détenu par l'État?
Eh bien, au regard des intérêts du groupe Accor, groupe hôtelier, ce serait de nouer une alliance capitalistique qui le conforterait, sachant qu'il y a une grande proximité d'intérêts entre les deux et que ces deux groupes se connaissent bien. La question, elle est surtout de savoir comment, si ce devait être le cas, on se partagerait les rôles. D'après notre confrère, trois options sont sur la table. Un rachat par Accor de la totalité des titres détenus par l'État. Cela, on n'y croit guère. L'État donnerait l'impression de lâcher l'un de ses fleurons en difficulté et on irait plutôt vers une cession partielle ou bien un échange d'actions Accor Hôtel et titres d'Air France. Dans tous les cas, l'État allégerait sa présence, mais il resterait en partie sur le pont. Il garderait un droit de regard.
Merci Jean-Marc Chardon, chef du service économie de France Culture, pour ses précisions ce matin. Il appelle les migrants à faire leurs valises. Matteo Salvini, nouveau ministre de l'Intérieur italien, patron de la Ligue d'extrême droite, donne le ton de la politique migratoire du nouveau gouvernement, né de l'alliance entre la Ligue donc et le mouvement 5 étoiles. Matteo Salvini était en visite hier à l'extrême sud du pays, en Sicile.
L'Italie est le pays où le coût de chaque demandeur d'asile est le plus élevé d'Europe, où le temps d'examen des situations est le plus long d'Europe. Il est temps d'agir. Comme ministre de l'Intérieur, je travaillerai avec nos partenaires européens et avec les pays d'Afrique du Nord pour empêcher des milliers de personnes désespérées de nourrir l'illusion qu'en Italie, il y a du travail et un toit pour chacun.
Et Matteo Salvini conclut, l'Italie ne peut pas être le camp de réfugiés de l'Europe. Il promet toutefois du bon sens pour éviter les naufrages et pour limiter les arrivées de migrants. Des propos durs donc, alors que quelques heures auparavant, 48 corps étaient repêchés en mer Méditerranée, au large de la Sicile justement. Des migrants partis de Tunisie, ils sont de plus en plus nombreux, voulant rejoindre l'île de Lampedusa. Ce matin, les recherches vont reprendre en mer, car si 48 corps ont été retrouvés, une centaines de personnes secourues. Il reste 80 personnes qui restent introuvables. Samedi soir, l'Aquarius, bateau de sauvetage, n'avait rien pu faire, comme le regrette Sophie Beau, présidente de l'association SOS Méditerranée.
Il y a eu une dégradation des conditions météo. Nous-mêmes, nous avons justement choisi de nous éloigner de cette zone dans laquelle il y a eu ce naufrage. Il y a des vents qui ont commencé à se lever et la mer a commencé à se former. Donc effectivement, on avait choisi une zone où la météo était un peu plus clémente, on va dire, pour pouvoir positionner notre bateau, puisque de toute façon, il n'y a pas assez de bateaux de sauvetage et qu'on est incapable de quadriller cette zone sur laquelle il y a potentiellement des départs d'embarcations. C'est vraiment complètement déprimant ce qui se passe. Ça fait des années que ça dure, ça fait des milliers de morts, en fait. Il faudrait mettre des bateaux de sauvetage dans ces zones de détresse qui sont tout à fait connues, en fait. On sait exactement ce qu'il faut faire pour sauver des vies. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas la priorité. Il y a encore cette tragédie humanitaire qui se déroule sous nos yeux, aux portes de l'Europe. Nous sommes là pour le voir en tout cas tous les jours avec notre bateau, l'Aquarius.
Des naufrages qui se multiplient en ce printemps. Ce week-end aussi, 9 personnes qui cherchaient à rejoindre l'Europe à bord d'une vedette sont mortes au large de la Turquie. Un nationaliste en tête des législatives en Slovénie ce week-end. L'ancien premier ministre conservateur Janez Janša, un proche du Hongrois Viktor Orban, est arrivé en tête. Lors de sa campagne, il avait brandi le spectre d'une invasion migratoire dans ce petit pays situé sur l'ancienne route des Balkans. Et Janez Janša n'est toutefois pas assuré de rassembler une majorité au Parlement. Les précisions de Jean-Arnaud Derrins.
C'est une Slovénie difficilement gouvernable qui ressort des élections de ce dimanche. Certes, Janez Janša, le candidat de la droite radicale, réussit son retour en arrivant largement en tête, mais avec seulement 25% des voix, il aura les plus grandes difficultés à former une majorité. L'ancien Premier ministre avait été lourdement condamné en 2014 pour une vilaine histoire de corruption et pour effectuer son retour, il avait choisi de se positionner à droite toute. Bénéficiant des largesses financières de son allié européen Viktor Orban, il avait axé sa campagne sur la menace d'une subversion migratoire. La Slovénie, petit pays de 2 millions d'habitants, coincé entre l'Autriche et l'Italie, est en effet le débouché de la route des Balkans que plus d'un million de réfugiés ont emprunté en 2015. Janez Janša se proposait donc de défendre la Slovénie et son identité, menacée selon lui non seulement par les réfugiés, mais aussi par le philanthrope George Soros ou bien les lobbies homosexuels. Ce type d'argument n'a pas convaincu au-delà de la base radicalisée des partisans de Janša, qui aura donc bien du mal à trouver d'éventuels partenaires de coalition.
Et face à la montée des populistes en Italie, des nationalistes aussi en Slovénie, la France et l'Allemagne pourraient en profiter pour se rapprocher un peu plus. En tout cas, Angela Merkel répond enfin à Emmanuel Macron sur l'idée d'une zone euro plus forte. Elle acquiesce. Dans une interview publiée hier, la chancelière soutient par exemple le principe d'un budget d'investissement pour la zone euro, ainsi que la création d'un système de prêts pour les pays en difficulté. Pour l'Élysée, c'est un mouvement positif qui témoigne de l'engagement européen d'Angela Merkel et de son gouvernement. Voilà maintenant une nouvelle alliance, Bachar el-Assad et Kim Jong-un. En tout cas, le président syrien va se rendre en Corée du Nord. Il l'annonçait hier à l'agence officielle nord-coréenne, à 2 semaines du sommet avec Donald Trump. Historiquement, il existe déjà des relations dans le domaine militaire entre la Syrie et la Corée du Nord, vente d'armes notamment. Mais aujourd'hui, les deux pays veulent surtout montrer qu'ils ne sont pas isolés sur la scène mondiale.
8h09 sur France Culture, c'est la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq. Après avoir évoqué la question migratoire aux portes de l'Europe, Paris met à l'abri un millier de personnes.
Un millier de migrants, de réfugiés du canal Saint-Martin et de la porte de la Chapelle. Tous sont actuellement évacués en bus vers des hébergements temporaires d'Île-de-France. L'élu parisien Yann Brossa se félicite de cette opération. Il appelle maintenant à des solutions pérennes. La ville et le ministère de l'Intérieur s'affrontent depuis des semaines sur ce dossier. Les députés ont voté cette nuit le nouveau bail mobilité dans le cadre de la loi Élan sur le logement. Un bail qui peut aller de 1 à 10 mois pour les personnes en formation, en études supérieures, en stage, apprentissage ou en mission temporaire professionnelle. La gauche dénonce déjà un bail précarité. L'opposition, qui s'est aussi levée ce week-end dans l'hémicycle contre un article qui facilite les ventes de logements sociaux, aujourd'hui limitée à 8 000 par an, elles pourront désormais s'étendre à 40 000 HLM, Eva Jednak.
Le gouvernement présente cette mesure comme un moyen de faciliter pour les Français l'accession sociale à la propriété. Il l'assure, les locataires des logements sociaux seront prioritaires à l'achat. Cependant, le texte ouvre aussi la vente à des acteurs privés et eux pourront acheter en bloc, c'est-à-dire par lot de plusieurs logements HLM. C'est là que le texte rencontre les plus vives critiques dans les rangs de l'opposition à droite comme à gauche. Valérie Rabault est présidente du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée.
Nous sommes bien sûr favorables à ce que des locataires puissent acheter leur logement social, mais nous nous opposons sur deux sujets. Le premier, c'est que nous ne voulons pas que le patrimoine financé avec de l'argent public soit bradé. Et ce texte de loi fait sauter les verrous, fait sauter les garde-fous qui existent. Ça, c'est le premier sujet. Et le second qui nous importe beaucoup, c'est éviter la ghettoisation dans les quartiers. Et là aussi, le projet de loi fait sauter un certain nombre de règles qui existaient auparavant et qui, de ce fait, vont fragiliser la mixité qui existe. Et ça, ça nous paraît être extrêmement dangereux pour la cohésion de notre société.
Une inquiétude partagée aussi par certains députés communistes. Il est évident, selon eux, que les acteurs privés n'achèteront pas dans les territoires les plus défavorisés. Le gouvernement, lui, justifie sa position. L'argent généré par les ventes sera réinvesti par les bailleurs sociaux dans la construction de nouveaux logements, entre 100 et 120 000 par an, selon ses prévisions.
Un jour d'enterrement pour la CGT qui appelle ce lundi les employés du groupe Carrefour à la grève. 249 petits magasins vont fermer cet été. Il ne s'agit pas d'hypermarchés mais de supérettes de quartier. 249 donc sur les 273 dont le groupe veut se séparer. Il y a eu très peu d'offres de reprise. La liste détaillée sera dévoilée aujourd'hui lors d'un comité central d'entreprise. Les dirigeants et les dirigeantes de l'audiovisuel public seront autour de Françoise Nyssen en fin de matinée. Tout à l'heure, la ministre de la Culture présente sa réforme avec 2 mois de retard. Cela concerne tout de même 17 000 salariés un peu partout en France. Le dossier, manifestement, s'est révélé plus compliqué que prévu. Bonjour Éric Chavroux.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Éric, a priori, il n'y aura pas le Big Bang attendu.
Oui, l'ouragan pressenti aurait faibli si l'on en croit les rares échos à ce sujet. Ce dossier hypersensible, suivi de près par l'Élysée, Matignon et Bercy, n'a en effet pas vraiment fuité. Le conditionnel est de rigueur et l'invitation officielle pour ce matin parle de scénario d'anticipation. Longtemps évoquée, la fusion majeure de type ORTF, l'énorme saignée budgétaire et les suppressions de chaînes ne devraient finalement pas avoir lieu, pas tout de suite en tout cas. Ainsi, France 4, voire France O, survivrait au prix d'une bascule sur le web. France 4, obligée d'œuvrer avec la radio Move dans un nouveau média en ligne pour les jeunes. Le numérique et le média global qui sortiraient grand gagnant des rééquilibrages financiers. Autre collaboration renforcée et déjà lancée, celle de France 3 et de France Bleu, avec notamment des projets de matinale en commun. Collaborer pour économiser, car même si le gouvernement s'en défend et qu'il n'y aura aucun chiffre précis ce matin, les économies en centaines de millions d'euros sont une priorité dans tous les domaines. France Média Monde vient par exemple d'adopter le lecteur de son en ligne de Radio France. Élément clé, la gouvernance, qualifiée de honteuse par Emmanuel Macron, reste aussi indéterminée. Gabriel Attal, député bien informé et porte-parole de La République En Marche, défendait encore vendredi un ou une chef d'orchestre de l'audiovisuel public. Mais le journal du dimanche affirme que l'idée d'une présidence commune semble abandonnée, tout comme le projet de loi qui aurait modifié les structures. Enfin, on ne sait rien encore d'une redevance repensée, ni du rôle du CSA, qui ne nommerait plus les PDG comme le souhaite Emmanuel Macron. Mais Françoise Nyssen devrait présenter les membres d'une commission chargée d'un rapport sur l'avenir du secteur et ses enjeux.
Alors Éric, il y a tout de même une certitude, ces perspectives crispent déjà les syndicats.
L'audiovisuel public sera-t-il la prochaine zone à défendre? C'est effectivement interrogé par exemple la CGT de France Télévisions et les syndicats de Radio France ont écrit au Premier ministre pour en particulier refuser une nouvelle baisse de ressources et ainsi, selon eux, une impasse éditoriale, professionnelle et sociale.
Merci Éric Chavroux. Et nous enlèverons peut-être ce conditionnel aujourd'hui. Réunion donc avec Françoise Nyssen dans la matinée. Le temps sera à nouveau instable ce lundi sur une grande partie du pays. Seules les côtes de la mer du Nord et la frontière franco-belge seront épargnées par la pluie et les orages. Orages qui ont d'ailleurs inondé une partie du Finistère hier, mettant Morlaix sous les eaux. Averses donc partout ailleurs ce matin. Orages dans l'après-midi de la Bretagne encore jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures ce matin avec une minimale de 17 degrés à Brest, 19 à Bordeaux, 20 degrés à Lille et Besançon. Comptez 21 à Lyon et en Corse, 22 la maximale sur l'Île-de-France et à Perpignan.